et sa politique fiscale a contribué à donner encore plus d'avantages aux revenus du capital qu'il n'en avait du temps de Clinton. Mais je crois que ce discours sur qui est responsable de quoi dans le contexte américain est un discours qui est un peu inaudible. Si les républicains essayaient de dire c'est Clinton qui a déréglementé la finance, on leur dirait non mais vous êtes bien, vous nous amusez à protester contre une déréglementation alors que toute votre idéologie c'est l'idéologie de la déréglementation du moins d'État. Donc c'est un argument que eux ne peuvent pas invoquer. Naturellement à l'intérieur du Parti démocrate, l'aile la plus à gauche qui serait liée aux syndicats pourrait dire que cette crise signe en quelque sorte la faillite de politiques néolibérales qui ont eu d'autres géniteurs que les républicains, puisqu'il y en avait un certain nombre dans le camp démocrate.
Dans l'actualité ce soir, les marchés financiers en pleine déroute. La bourse de Paris a subi un véritable krach. Toutes les places européennes ont également sombré.
La panique s'empare des marchés financiers. La bourse de Paris chute de 9%, Francfort de 7%, Londres de près de 8%. La tempête est générale, effondrement à Moscou et à Rio.
Sur tous les écrans de la planète, des chiffres et partout le symbole négatif devant.
Et s'il y a un énorme manque de clarté à terme, la bourse ne peut plus baisser.
Face à cette tourmente, Nicolas Sarkozy provoque une réunion avec les patrons des banques et des compagnies d'assurance. Pas de quoi calmer les marchés. Ce soir, Paris cède 9%, du jamais vu depuis la création du CAC 40.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, un mouvement de panique. Et vous savez, sur les marchés, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. D'où ce mouvement complètement irrationnel, incontrôlé, qui est là.
Chacun d'entre nous prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité du système financier.
15h30, la bourse américaine voit son cours s'effondrer.
59% des Américains pensent qu'on est entré dans une dépression du style 1929.
Alors, c'est pas tout hein, dans le monde diplomatique de ce mois-ci. À la suite de Tocqueville et de Bernard-Henri Lévy, Serge Halimi a relevé le défi hein, des grands voyageurs français aux États-Unis. Et il faut dire que vous êtes cantonné au Montana. Bon, c'est moins vaste quand même comme voyage que celui de Bernard-Henri Lévy, mais enfin...
C'est l'un des États les plus vastes des États-Unis.
Oui, mais enfin, c'est pas tous les
moins peuplés.
Alors, vous parlez un petit peu de Wyoming, passant, oui. Mais enfin, c'est quand même... Bon, enfin, vous avez relevé le défi, ce qui est très courageux, après Bernard-Henri Lévy et son American Vertigo.
Alors pourquoi ce défi? Parce que, en règle générale, on le sait, les élections américaines, pas en règle générale, par définition, se disputent État par État. Et chacun des candidats a déjà déterminé les États dans lesquels il ne fait pas campagne, parce qu'il perdrait son temps en faisant campagne dans ces États. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de campagne présidentielle dans l'État de New York, il n'y a pas vraiment de campagne présidentielle en Californie, il n'y a pas vraiment de campagne présidentielle au Texas. À New York et en Californie, parce qu'on sait que Obama va l'emporter, à vrai dire, s'il ne l'emportait pas dans ces États, c'est même pas la peine de réunir les électeurs, et au Texas, parce qu'on imagine que McCain va l'emporter, et assez largement. Donc, le reste, le jeu pour la plupart, pour les appareils des deux partis, consiste à identifier les États qui peuvent basculer, et ils sont relativement peu nombreux, et à concentrer leurs forces sur ces États. Or, ce à quoi on assiste dans cette campagne, c'est à un pari stratégique assez audacieux de la part de Barack Obama, qui consiste à dire « on ne veut plus considérer que 25 États sont acquis aux républicains et qu'on ne va pas se battre dans ces États ». Et il y a une zone du pays en particulier, l'Ouest, donc la zone dans laquelle je me suis rendu cet été, une zone du pays en particulier, l'Ouest, qui est acquise et très solidement acquise aux républicains depuis 1980. Dans certains États, ils l'emportent par deux contre un. Ça peut être 65% pour les républicains, 35% pour les démocrates. Dans cette zone du pays se produisent un certain nombre de modifications démographiques, de modifications idéologiques, de modifications écologiques, telles qu'il est possible pour nous peut-être de l'emporter. Et si on l'emporte dans un ou plusieurs de ces États, eh bien on pourra en quelque sorte compenser la perte qu'on enregistrerait dans un État clé qu'on espère remporter, mais qu'on pourrait ne pas remporter le soir de l'élection. Ce serait en quelque sorte une espèce de garantie, de police d'assurance contre une défaite éventuelle en Ohio ou en Floride ou en Pennsylvanie, qui sont les États en général les plus disputés. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement de concentrer son attention sur cette zone du pays qui est acquise aux républicains depuis 25 ans et de concentrer son attention avec des chances de succès qui ne sont pas négligeables.